la République turque avec son peuple a préservé sa démocratie ce jour-là et je l'ai vécu de manière très profonde. Si cette tentative de putsch avait abouti le 16 juillet au matin, nous nous serions réveillés dans une toute autre Turquie.
Merci à Hakan Olçay d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à vous.
Hakan Olçay, l'ambassadeur de Turquie en Belgique, en studio avec nous, Benoît Feit du journal télévisé. Bonjour.
Bonjour.
Benoît Feit, vous connaissez bien la Turquie, vous y êtes allé d'ailleurs tout récemment pour couvrir la tentative de putsch. On entend dans cette interview qu'il est beaucoup question de ce mouvement güleniste, de Fethullah Gülen. Alors ses partisans parlent d'un mouvement idéologique de pensée, de réflexion sur la société. Là, on entend qu'il est taxé de terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement de ce mouvement un peu mystérieux ?
C'est assez mystérieux en effet. Bon, on peut d'abord rappeler que le mouvement de Fethullah Gülen dépend d'abord de ce leader charismatique qu'est Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis depuis la fin des années 90, 1999 si ma mémoire est bonne. Il a créé un mouvement dans les années 70 qui à la base est un mouvement plutôt de pensée, plutôt spiritualiste, qui tente de faire la synthèse entre d'une part un islam rigoureux mais aussi une espèce de vie moderne. Et ce qu'il entend surtout par vie moderne, c'est s'adapter notamment à l'économie de marché, à cette vie un peu mondialisée pour le dire comme ça. Alors Fethullah Gülen a sur son on peut compter sur plus ou moins, on va dire, 1 million, ce sont les chiffres qu'on entend, d'adeptes un peu partout dans le monde, pas uniquement en Turquie. Il a d'ailleurs un réseau d'écoles, de lycées notamment, qu'on retrouve dans 140 autres pays que la Turquie.
Dont la Belgique,
de pays en Afrique, en Asie centrale, ailleurs en Europe. Donc c'est un mouvement qui est très très répandu et qui est surtout actif sur le terrain, on va dire, social, sociétal. On l'a entendu dans l'interview, l'ambassadeur qui rappelait qu'il y avait également des hôpitaux. Donc outre ces écoles, il y a aussi des organes de presse. Enfin, ils ont un petit peu du mal ces derniers temps à s'exprimer en Turquie, mais il y avait ce grand journal Zaman qui tirait à 650 000 exemplaires, je pense. Donc c'est pas rien. Et ce mouvement Gülen, à la base, avait une vocation à être surtout actif sur le terrain social, comme je le disais. Mais dans le même temps, on a vu qu'il a réussi à se développer et surtout à placer ses adeptes un petit peu partout dans l'appareil de l'État turc. Donc on a retrouvé des membres, notamment dans la magistrature, dans l'armée, dans la police, dans la presse, on l'a dit, dans l'éducation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on entend l'ambassadeur notamment de Turquie nous dire que ce sont de véritables tentacules rampantes qui sont un petit peu partout dans l'État. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il n'y a rien de neuf à ce sujet-là. Ça, l'ambassadeur, comme le pouvoir, comme le président Erdogan, savent ce qu'est le mouvement Gülen, puisqu'ils en étaient les alliés depuis des années et des années. Il y a seulement une rupture entre 2011 et 2013 entre ces anciens alliés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces alliés sont désormais qualifiés de terroristes.
Oui, c'est ça. La rupture, elle date de 2013, en particulier quand le président Erdogan a fait l'objet d'enquêtes du système judiciaire pour des affaires de corruption.
Tout à fait. Alors, ce qu'il a à l'époque présenté comme une espèce de coup d'État, donc il y a un État dans l'État, mais comme je le disais, il le savait, effectivement, il y a des magistrats proches de Fethullah Gülen, mais qui, des années avant, notamment à partir de 2007, ont aidé Erdogan à purger un petit peu l'appareil de l'État, des kémalistes, de cette ancienne oligarchie laïque, militarisés, parce que les kémalistes, il ne faut pas l'oublier, qu'on présente souvent comme des laïcs en Turquie, ont bénéficié du soutien de l'armée pendant des années, donc ce n'est pas non plus un modèle de démocratie. Mais depuis 2007, cette rupture est en... depuis 2011, cette rupture est en cours, et aujourd'hui, on voit bien où elle aboutit.
Effectivement. Alors, on a entendu l'ambassadeur regretter que les ONG comme Amnesty, mais aussi les médias, n'aient pas plus exprimé leur soutien aux autorités turques qui ont été démocratiquement élues, c'est indiscutable.
C'est indiscutable, avec des proportions que beaucoup d'hommes et de femmes politiques ici en Europe occidentale envient. Il faut rappeler que depuis 2003, les différentes élections qui ont eu lieu en Turquie ont chaque fois plébiscité l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, le parti du président Erdogan, avec des scores allant de 42 à 50%. Et donc personne n'a apparemment sous-entendu que ces élections...
Mais ce sentiment, c'est quelque chose que vous avez constaté en Turquie aussi ?
Alors, ce sentiment, tant qu'à ce discours, on l'entend souvent en Turquie. Oui, donc on entendait l'ambassadeur déplorer que pendant les 48 heures qu'on suivit le coup d'État, Amnesty ne soit pas intéressé au sort des victimes du coup d'État. C'est quelque chose qu'on entend souvent en Turquie, où on se plaint, en tout cas dans le chef des partisans de l'AKP, que l'Europe occidentale, sous-entendu ses médias et sa diplomatie, ait eu plus de complaisance envers le sort réservé aux putschistes au lendemain du putsch, qu'ils ne se sont inquiétés du sort des hommes et des femmes décédés lors du coup d'État.
Alors on a beaucoup vu ces partisans de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, manifester dans les rues, y compris ici à Bruxelles. pour les détracteurs de l'AKP et d'Erdogan, c'est plutôt difficile pour l'instant de faire entendre une voix discordante.
En tout cas, c'est ce que j'ai pu réaliser à Istanbul. Alors, il y a deux catégories de la population. Je dirais, il y a monsieur et madame tout le monde qu'on croise dans la rue. Et là, on peut tendre le micro et les gens vous répondent spontanément ce qu'ils pensent du président Erdogan et du gouvernement AKP. Par contre, quand on essaie de s'adresser à des gens qui ont des statuts un petit peu plus visibles, des professeurs d'université ou des journalistes, des gens qui sont habituellement critiques envers le pouvoir, ben là, on a du mal à récolter les avis face caméra. Les gens ont peur aujourd'hui, peur de s'exprimer, peur des représailles qu'ils pourraient subir s'ils s'exprimaient. Et là, je ne parle pas de partisans, de Fethullah Gulen, mais simplement d'intellectuels, on va dire, critiques envers le pouvoir. Mmh. Ces gens aujourd'hui ne s'expriment plus, ce qui pose quand même des questions pour qualifier cet état encore de démocratie, comme le fait encore l'ambassadeur ici. Il y a beaucoup de questions à ce sujet-là aujourd'hui.
Une chape de plomb qu'on a aussi en Belgique, dans la communauté turque, vous pensez?
La communauté turque en Belgique a toujours été très très proche du pays, et l'ambassade a historiquement joué un certain relais à ce niveau-là, donc il faut reconnaître qu'en Belgique, on retrouve les clivages qu'on retrouve en Turquie, mais il y a une bonne partie de la population turque ici en Belgique qui soutient Erdogan, et on retrouve également des partisans de Fethullah Gulen, et donc les problèmes de là-bas se retrouvent également ici par moment.
Et l'ambassadeur disait que la Turquie restait déterminée, malgré les critiques du moment, à entrer un jour dans l'Union européenne. Dans la rue, en Turquie, est-ce qu'on y croit encore ?
Alors, dans la rue en Turquie, on n'y croit plus beaucoup. Dans la rue en Europe, on n'y croit plus beaucoup, il faut bien le reconnaître. Et dans les cercles diplomatiques européens, on n'y croit pas plus. Alors, bon, j'entends que l'ambassadeur continue à y croire. Si vous me permettez la palissade, j'ai l'impression que c'est là quand même un discours très diplomatique.
Oui, effectivement. Cela dit, c'était quand même un rêve, il y a quelques temps, d'entrer dans l'Union européenne pour beaucoup de Turcs. Hein. C'est une grande désillusion de ce côté-là.
C'était l'objectif premier, enfin en tout cas l'objectif annoncé de Erdogan quand il arrive au pouvoir au début des années 2000. Et bon, dans un premier temps, le fait de vouloir rejoindre l'Union européenne lui a permis aussi de se rapprocher des standards démocratiques européens, donc d'une part aussi évacuer et essayer de limiter le rôle de l'armée au sein de l'appareil de l'État turc. C'était ses premiers objectifs, mais bon, voilà, entre-temps, on a vu que les choses avaient bien évolué dans un autre sens.
Merci à tous les deux, 7h56 sur la première dans quelques instants. Notre séquence « Et si ?» Et si on revisite l'actualité avec deux humoristes et chroniqueurs de la première. À tout de suite.